Mémoire vive, une interview, Albert Agnel. Colombac.
C'était Gino Uziel. Et Gino Uziel était vraiment un type qui mettait une ambiance canon, il dansait, il était sympa, et c'était un flambeur, comme on l'appelle. Il aimait bien s'amuser et tout. Un jour, il a dit à mon père, viens une fois voir ma famille à Bruxelles, chez nous, à la maison, tu verras ma mère, tu verras mes frères, tu verras mes sœurs. Joseph trouvait ça très marrant que Gino l'invite, parce que mon père était toujours chez son oncle qui l'abritait, dont la femme était très difficile, mais enfin très organisée aussi. C'était la tante qui parlait l'allemand, Hochdeutsch. C'était une Allemande qui a sauvé aussi mon oncle qui avait 1m50. Quand les Allemands sont venus, elle a parlé avec les officiers allemands, ils ont fait une perquisition et ils ne l'ont pas trouvé parce qu'il était dans une armoire ou dans un coffre. Bref, elle lui a sauvé sa vie, bien sûr. Et mon père, donc, habitait chez eux avant la guerre. Et donc, il arrive chez Gino, je l'appelle oncle Gino, c'est mon oncle. Il a vu ma maman, Daisy, Benvenida, et il a dit, mais elle n'a rien compris, « Allein kann man nicht glücklich sein ». Et je crois qu'il a trouvé ça un gentil monsieur, affable, bien, il portait un beau costume.
Si tu peux être
heureux. On ne peut être heureux tout seul. C'est une phrase romantique, mais qui a bien servi, et je crois que ça a pu le coup de foudre. Et alors tout le monde a dit, ah, c'est un diamantaire. Et n'oublie pas, c'était une famille de marchands de tapis. Il y avait une ambiance canon à la maison. Alors mon père, il a trouvé un refuge où il faisait bon être accueilli, et eux, ils parlaient en ladino, lui, il parlait en yiddish. Mais il parlait déjà le français, l'anglais, le flamand aussi. Mon père était un homme très social. Il arrivait à partout à sympathiser avec les gens, et les gens sympathisaient avec lui, parce qu'il ne faisait pas de distinction de classe sociale. Nous habituions à la chaussée de Malines. Mon père avait un frère qui était resté en Pologne également. À un moment, il faut connaître un peu d'histoire, la Pologne était envahie donc par les Allemands, et les troupes allemandes avancent et vont vers la Russie. Ce qui se passe, c'est que derrière les troupes allemandes, il y a les Einsatzgruppen. Les Einsatzgruppen sont des volontaires allemands ou des volontaires polonais qui sont armés. Ils ont une fonction, écoutez-moi bien, ils vont chercher les juifs dans les villages, dans les shtetls, dans les villes, dans les fermes. Ils les sortent de là, ils creusent un grand fosse et ils tirent et les tuent. Mon grand-père est mort de cette façon. Donc, vous ne pouvez pas savoir la tristesse que j'ai de savoir que mon grand-père a été assassiné par les Einsatzgruppen. Donc ça, c'est déjà un point qui est indélébile et qui ne sortira jamais de mon cerveau. Pour te dire, des volontaires qui veulent tuer des Juifs. Et c'est surréaliste. En 1941 déjà. Et mon père, entre-temps, est en Belgique, et je dois vous raconter l'histoire de mon père, c'est une longue histoire. En 1942, en Belgique, il y a les lois juives, c'est-à-dire les juifs ne peuvent pas faire ci, ne peuvent pas faire ça, ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas ci. Bref, mon père sent, ça sent le roussi. Et mon père est un type très sympathique, et il connaît tous les tailleurs de diamants, et je crois qu'il reçoit le message, indirectement, qu'il va y avoir une rafle dans la rue où il est, et qui vont descendre dans toutes les maisons, parce qu'ils ont les listes des juifs via l'organisation des juifs de Belgique, où la commune leur donne les noms, etc., etc. Donc, il y a une rafle en 1942, et ils entrent dans la maison Bacchuslan où il habitait. Il habitait Bacchuslan à Deurne, avec son fils, Gustave, parce qu'il avait un enfant avant la guerre, et jusqu'à 1942, c'était assez calme, et ma maman était grecque. Attention, c'est très important. Elle avait un passeport grec. Or, on n'embêtait pas les Grecs, puisque les Grecs pactisaient avec les Allemands à cette époque-là, malgré qu'il y avait une résistance. Donc mon père comprend que la situation est dramatique, et je crois qu'à ce moment-là, le frère de ma mère, oncle Bernard, est un homme de la résistance. Et je crois que c'est lui qui me donne le tuyau qu'il faut faire des faux papiers pour Joseph Ambach, qui s'appelle alors Joseph Peters, et il prend le train pour aller en Suisse. Parce qu'en Suisse, il y avait une loi humanitaire qui permettait à des gens d'entrer s'ils avaient un petit enfant de bas âge. Gustave avait 2 ans ou 2 ans et demi, et ma maman était cachée avec tante Marie, qui était la femme de Bernard, qui était le frère de ma mère. Et c'est compliqué. À Comblain-la-Tour. Mais ça aussi, c'est très important, Comblain-la-Tour, qui était un village très anti-allemand. Le bourgmestre était dans la résistance, tout le monde était dans la résistance là. Elle pouvait compter sur l'amitié et la collaboration de la secrétaire du bourgmestre, que j'ai encore rencontré bien très longtemps avec, qui m'a reconnu parce que je ressemble à ma mère, qui a connu ma fille, qui a trouvé que c'était une copie conforme. Donc c'est important cette histoire. Mais mon père quitte alors avec le train d'Anvers, avec une autre madame qui s'appelle aussi Peters, qui a 16 ans, et qui joue du piano, qui vit encore. C'est celle qui a fondé l'agence Weinberg, très connue. Elle a maintenant 95 ans, elle vit encore, elle parle hébreu, elle habite en Israël, et je l'appelle ma tante. Ils sont partis ensemble. Maintenant, écoutez bien, ça c'est important. Mon père parlait le Hochdeutsch également. Hochdeutsch, c'est pas l'allemand vulgaire. Quand un officier se présente devant toi et demande tes papiers, il parle l'allemand haut. Quand un soldat se présente, il parle le dialecte allemand. Donc le Hochdeutsch, ça fait déjà officier. Et les officiers demandent à mon père, qu'est-ce que vous allez faire? Qui vous êtes? Ah, moi je suis Joseph Peters. Nous sommes musiciens, moi je chante. Et ma sœur, elle joue du piano. Et on va à Lyon. Il arrive à Lyon, il passe tous les contrôles de passeport. Et là, ils se séparent. Et mon père veut aller en Suisse, comme je vous ai dit. Mais il apprend que tous les passeurs qui font passer les Juifs par les montagnes, comme dans le film Schindler's List, sont des doubles agents de la Gestapo, c'est-à-dire qu'ils sont payés par Juifs qu'ils peuvent amener. Donc il faut faire très attention. Donc il est bloqué à Lyon, mais il n'a pas d'argent, c'est un fugitif, il doit manger, il doit boire. Comment faire? Il n'a qu'un don, c'est sa voix. Par hasard, il rencontre un Flamand d'Anvers. Et ce Flamand le voit et lui dit, moi je te connais. Tiens, comment tu me connais? Oui, je sais que toi tu es Joseph Ambach. Oh, mais non, je m'appelle Joseph Peters. Non, tu t'appelles Joseph Ambach et tu chantes formidablement bien. D'ailleurs, je t'ai vu avant la guerre, il y avait dans les soirées, le samedi, opéra et bel canto, et toi tu enlevais toujours la meilleure prestation. Tu ravivais les cœurs de tous les gens, l'émotion, tu chantais, c'était formidable. Et moi, je suis l'intendant de l'Opéra de Lyon. L'Opéra de Lyon, sous le gouvernement de Vichy, mon cher. Donc il a mis mon père dans la chorale. Parce que les Allemands ne contrôlaient pas la chorale, mais contrôlaient seulement les chanteurs. Donc il a mon père, reçoit un job dans la chorale. Et j'ai des photos où il est sur le toit de l'Opéra de Lyon, tu te rends compte ce que ça me fait comme plaisir d'entendre que mon père est sur un bon, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne place, mais le fait qu'il peut chanter à l'opéra, il connaît tous les airs, hein, Verdi, la Traviata et tout ce que tu veux, et les trucs de Wagner, il connaît ça, c'est pour lui le hit parade, son hit parade, il était dans la musique grâce à Joseph Schmidt, qui était à l'époque le grand chanteur d'opéra, et après Benjamin Gigli. Donc il était très influencé, c'était un ténor très haut, mais une voix avec une émotion extraordinaire. Donc, et il reste là 2 ans. Il a à manger, il a à boire, il a un appartement. Et l'appartement, il le partage avec un cousin de la famille de sa femme. C'est le cousin Pepo, qui était de Salonique aussi, qui lui aussi était à Lyon. Beaucoup de Juifs étaient à Lyon, prenaient la position pour partir en Suisse. À un moment, vient Klaus Barbie, quand vers 1944, le débarquement, ça sent le roussi pour Hitler et ses troupes. Il envoie Klaus Barbie pour tuer du juif à fond la caisse. Et mon père se fait prendre dans une rafle, dans la rue, on le déculotte. On lui dit, vous êtes juif. Non, non, moi je suis un type d'Anvers qui commence à parler en flamand. Et alors, aller voir Anvers, envoyer des papiers. Mais entre-temps, le courrier ne fonctionnait pas entre Anvers, puisqu'il y avait les bombes. Donc mon père est pris en prison et il va à la prison très connue de Fort-Montluc. Mauvaise expérience. Et là, il est mis dans la baraque aux Juifs. Dans la baraque aux Juifs, il chante tous les jours. C'est marqué, j'ai les témoins, je les ai vus. Il pousse le contre-hutte. Pour pousser le contre-hutte, c'est d'aller plus haut que le do du prochain octave. C'est que tu dois déjà être, avoir une technique très forte. Et là, ça lui permet de garder le moral. Et à un moment, il doit aller à Drancy, parce que ça, c'est un camp qui envoie les Juifs vers les camps de la mort, parce qu'il faut le train. Le jour après qu'il a quitté Fort-Montluc, Klaus Barbie décide de fermer la prison et de tuer tous les Juifs qui y sont. Donc mon père est à Drancy. Il arrive à Drancy, qui est une sorte de tout près de Paris, et c'est là qu'il y a les trains. Mais ce qui se passe, c'est que la résistance est en action. Et la résistance fait sauter les voies de train. Et grâce à ça, aucun train ne part de Drancy. Et c'est 44-45, il reste là 2 mois, les Allemands quittent. Alors, très vite, ils partent de Drancy, mon père est libéré, et par la Croix-Rouge, il retourne sur Paris et rejoint ma mère. C'est très important parce que ça vous dit qu'ils ont passé des heures, père ne sachant pas ce qui se passe avec son fils, ma mère ne sachant pas ce qui se passe avec son mari, dans les camps, etc. Il l'a échappé belle pour le même prix, il aurait été fusillé illico presto. Et il a chanté, et ce monsieur Clayton, je le remercie, ici même, je ne l'ai plus revu. Après, il a fait une carrière extraordinaire. Il a été condamné en première instance, mais en deuxième instance, beaucoup de gens sont venus dire qu'il a sauvé un tel, et je crois que ça faisait partie du travail de mon père, il a aussi fait quelque chose. Et il a obtenu la société belge, il est devenu un très grand chef d'orchestre.
À la voix, Joseph Ambach et Benvenida Desi Uziel. Composition musicale, Nico Vancouver.